notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
les rôles majeurs des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Storm Cities.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de New Stank Cities, le podcast dédié à l'actualité de la ville, de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement, telle que celle-ci, cette actualité a été traitée par les équipes de New Stank Cities sur cities.newstank.fr, une revue panoramique des différents sujets que nous traitons, avec une exhaustivité qui n'est pas recherchée, mais un éclairage en fonction de l'actualité et des thématiques les plus prégnantes. Les plus prégnantes, c'était bien évidemment les associations pour le logement d'abord. C'est évidemment l'ensemble des structures telles que l'UNAFO, Solia, la FAPIL. J'en oublie bien évidemment, mais nous allons y revenir, car c'est à l'occasion de la journée nationale des acteurs du logement d'insertion à Paris, qui se tenait le 18 octobre, qu'un certain nombre d'interviews, de revues d'actualité ont été traitées avec des vidéos que vous pouvez retrouver sur cities.newstank.fr. Au premier rang d'entre elles, Kamel Seni, responsable du pôle logement d'abord chez Solia, qui nous dit « Nous avions besoin d'une vision globale liant l'hébergement et le logement, notamment sur les sorties d'hébergement. C'est le besoin que nous avons, nous attendons des moyens. Le questionnement est de savoir si les 44 millions inscrits dans le PLF 2003 pour le logement d'abord seront suffisants. Notre réponse est non. » Alors, Kamel Seni demande au gouvernement d'être plus clair sur l'utilisation des 44 millions. Comment sera ventilée cette somme? Va-t-on avoir simplement des opérateurs 115 ou allons-nous obtenir des logements en plus? Va-t-on avoir des accompagnants sociaux en plus? Les primes Ségur vont-elles être intégrées dans les 44 millions? Beaucoup de questions dans ce PLF. Et puis, 13 minutes 29 d'interview à retrouver aussi avec Kamel Seni. Je rappelle que New Stank City sera partenaire des États généraux du logement à Marseille, pour lesquels une large place sera donnée au logement d'insertion. Et donc, c'est un vrai plaisir que de faire aujourd'hui cet éclairage, notamment avec Thierry Debrant, président de la FAPIL, lui, alors la FAPIL toujours, durant la Journée nationale des acteurs du logement d'insertion, c'est la Fédération des associations et acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement. Nous faisons nos plans de financement et d'investissement 2 ou 3 ans avant de produire nos logements. Depuis 2 ans, nous connaissons une inflation allant de 5 à 15% sur la construction de logements. Donc sur ce qui a été construit financièrement il y a 2 ans, il nous manque 30% sur nos plans d'investissement. La question qui se pose aujourd'hui est comment allons-nous financer ces 30%? Alors, sur le bouclier énergétique, sur ces sujets-là, 6 questions à Thierry Debrant, c'est à retrouver aussi sur cities.newstank.fr. On continue avec l'UNAFO. L'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné, dont les missions sont de mettre en œuvre des solutions pour trouver une réponse en logement aux personnes en situation de précarité, rupture familiale, etc. Et avec nous, pour là encore une interview en vidéo lors de ces rencontres FAPIL plus Solia plus UNAFO, eh bien Arnaud De Broca. Arnaud De Broca, qui est le délégué général de l'UNAFO, et les mêmes préoccupations. Il revient sur les propos à cette occasion de Sylvain Mathieu, de la DIAL. Sylvain Mathieu, on le rappelle, le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement, qui nous dit souvent que les résidences sociales sont un fourre-tout. Il n'a pas tort. Nous le prenons plutôt sous un aspect positif, car cela montre notre capacité à répondre avec souplesse aux besoins d'une commune sur le choix des personnes à loger. Pour l'UNAFO, il est important d'arriver à mieux définir ce qu'est une résidence sociale. Passionnant, là encore, à retrouver sur cities.newstank.fr. C'est dans ce contexte que 10 demandes des acteurs du logement d'insertion pour le deuxième plan quinquennal ont été faites et sont à retrouver sur cities.newstank.fr. Parmi elles, soutenir la production de résidences sociales, y compris les foyers des jeunes travailleurs, et revoir le dispositif Locavantage qui ne parvient pas à capter des logements privés au profit de l'intermédiation locative, prendre en compte le décalage de 5 ans entre la décision de produire des logements en PLAI ou PLAI adapté et la mise en chantier dans un contexte d'augmentation des prix, puisque le prêt est fait à une période, mais le remboursement du PLAI se fait au taux courant. Si les coûts ont pris 20%, les financements et les agréments n'ont pas augmenté de 20%, indique Thierry Debrant, président de la FAPIL. Et puis aussi unifier les modalités d'accompagnement vers et dans le logement, revaloriser l'accompagnement de la rénovation énergétique. Bref, retrouver ces 10 demandes. Logement social maintenant, de façon plus large, vive inquiétude pour 2023 selon les associations régionales HLM. Avec ces chiffres, bien que 205 800 880 logements HLM aient été attribués, le nombre de ménages en attente d'un logement social augmente de 99 000, près de 100 000 entre 2021 et 2022, et s'élève au total à 2 357 843. L'augmentation de la pression sur le parc locatif, parallèlement, il est observé une baisse similaire de l'activité de la promotion immobilière et des achats de logements en VFA par les organismes HLM. Seule l'activité de rénovation connaît un regain, plus 6% en valeur par rapport à 2021. Donc ça, les constats menés par la Fédération nationale des associations régionales HLM à l'issue de leur bureau réuni le 18 octobre. Donc, vive inquiétude, expression forte, la FNAR alerte sur les conséquences d'un développement réduit du parc de logements HLM selon Jean Vidon, dont nous sommes toujours heureux de reprendre les propos clairs, combatifs et pertinents, président de la Fédération nationale des associations régionales HLM. C'est dans ce contexte que Idéal qu'on ne présente plus, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement avec Catherine Sabat publie une étude de 53 pages réalisée par Alexandre Coulonde, chercheur associé au LATS, le Laboratoire Technique Territoire et Société à l'École Nationale des Ponts, et Vincent Lasserre-Burgi, chercheur associé au LVMT, Laboratoire Ville Mobilité toujours à l'École des Ponts, qui définit trois typologies de territoire, les bâtisseurs, les modérés et en retrait, avec cet intitulé « Construire ou pas, les territoires de la production ». Rajoutons entre parenthèses non-production, les territoires de la non-production de logements, étude publiée par Idéal, à retrouver sur cities.newstank.fr. Là encore, c'est dans ce contexte qu'Olivier Klein donne de la voix pour ne pas laisser passer les passoires thermiques dans le cadre de la location touristique. Hors de question de laisser les propriétaires louer des passoires thermiques sur Airbnb, c'est le message d'Olivier Klein sur BFM Business. Le message fait référence aux logements étiquetés F et G en diagnostic de performance. Le décalage entre les biens loués en longue durée et ceux destinés à courte durée est dénoncé par les professionnels de l'immobilier. Nous allons voir de quelle façon cela se traduit concrètement. Nous allons suivre ça de très près et c'est à retrouver sur cities.newstank.fr, notamment dans le cadre d'un paradoxe qui était souligné notamment par la FNAIM. Conseil de l'UE et énergie, accord des 27 membres sur la neutralité carbone des bâtiments d'ici à 2050. Deux grands axes, transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d'ici à 2050, viser la nullité des émissions de tous les bâtiments neufs à partir de 2030-2028 pour les bâtiments publics. Sobriété énergétique, mais aussi sobriété foncière. Et qui dit sobriété, dit financement. Et c'est dans ce cadre que le Conseil des prélèvements obligatoires rend public les 11 recommandations de son rapport sur le ZAN. Alors, les 11 recommandations, elles sont à retrouver sur cities.newstank.fr. Refonte en profondeur du financement des collectivités, envisager l'affectation des DMTO au bloc communal et étudier la pertinence du taux variable de DMTO en fonction du caractère artificialisation des opérations immobilières, intégrer les conséquences de l'objectif ZAN dans les projections réalisées sur la réforme des valeurs locatives, confier aux administrations compétentes le chiffrage de l'impact économique et financier lié à la mise en œuvre du ZAN. Bref, tout ça est à retrouver sur cities.newstank.fr et notamment mise en lumière à travers les propos de Patrick Defa, membre de la Cour des comptes et représentant du Conseil des prélèvements obligatoires, qui revient sur ses recommandations. La fiscalité locale, alors c'était au Sénat le 26 octobre, la fiscalité locale n'est pas responsable à titre principal de l'artificialisation, mais peut devenir un outil plus efficace au service de l'objectif ZAN. C'est un déterminant très marginal dans les décisions qui conduisent à artificialiser. Un rapport conjoint de l'INRA et de l'IFSTAR montre que le poids économique de la fiscalité locale dans une opération immobilière ne peut avoir pour effet d'influencer de manière significative les décisions d'artificialisation. C'est dans ce cadre que les 11 recommandations se font. Côté projet, prospective, Grand Paris, lancement d'un AMI quartier métropolitain d'innovation pour sélectionner 3 communes. Ville, 15 idées plébiscitées et 9 controversées. Ça, c'était la rue commune à l'Institut Léonard, dont Newstank Cities était le partenaire. Je vous encourage à regarder ça vraiment de très près. Donc Make, Richer et Associés, Boutet Consultant, Boutet Conseil Consultant, c'est à retrouver donc ce groupement avec Léonard. Et on salue Étienne Valois et toute l'équipe autour de lui. Newstank Cities était partenaire de l'événement. On parle de quoi ? Je résume en une phrase. Il y a 20 ans, on allait voir l'élu, le maire, on disait « Monsieur, ça serait bien d'avoir tel tronçon qui soit, monsieur le maire, dédié aux voies cyclables. » Et puis, on bricolait, on mobilisait les services techniques de la ville. Bon, et aujourd'hui, c'est devenu une véritable politique publique que ces voies cyclables. Eh bien, on pense à la rue commune que demain, il en sera de même pour la rue commune, c'est-à-dire cette rue avec moins de voitures, avec une mobilisation des places de stationnement, avec du verdissement, de la végétalisation, de l'appropriation, du ralentissement, et que ces exigences que l'on voit fleurir, notamment dans les budgets participatifs de nos communes, vont nécessiter une méthode, un cahier des charges, une ligne de conduite, une phase de dialogue et de définition des objectifs. C'est ce qu'a fait la rue commune à travers une étude majeure qui est lauréat de l'ADEME. Et pour retrouver ce rendez-vous qui avait lieu avec nos amis de Marseille, de Clermont-Ferrand et de bien d'autres villes, les élus, les amis de l'ADEME, c'est à retrouver sur cities.newstank.fr. Les événements à venir, le MAPIC, comment construire les lieux de vie et commerce de demain? On pose la question, on espère y trouver des réponses. En tout cas, on y sera le 29 novembre au 1er décembre. Et c'est comme traditionnellement que se tient l'événement à Cannes. Le RNA aussi, le Réseau National des Aménageurs, qui continue son cycle avec les troisièmes rencontres du cycle Oser l'aménagement à Paris le 25 novembre. On y sera aussi. Et puis enfin, le webinaire « Les blocages dans les projets de revitalisation des friches » le 7 novembre avec le CEREMA. C'est à retrouver tout ça sur cities.newstank.fr. En attendant, je vous souhaite une belle et heureuse semaine et on se retrouve lundi prochain. À toutes et à tous, bon lundi.